talmudique. Rabbin Michael Azoulay, bonjour.
Bonjour.
Rabbin Michael Azoulay, c'est un plaisir de vous retrouver cette semaine pour poursuivre notre réflexion commencée la semaine dernière où nous avions abordé la fête de Rosh Hashanah, le nouvel an juif, comme une fête en relation avec le désir d'enfant, la grossesse et la naissance. Une fête qui se poursuit et s'articule avec une seconde fête, Kippour, ou jour du grand pardon, qui tombe cette année, mardi soir prochain, jusqu'à la tombée de la nuit du mercredi soir. Un peu plus de 24 heures de jeûne, de prière et de réflexion sur la condition humaine, sur la justice, le droit, les valeurs éthiques qui orientent notre vie. Et je pense particulièrement au texte des prophètes lu en ce jour. Voici le jeûne que j'aime, c'est de rompre les chaînes de l'injustice, de dénouer les liens de tous les jours, de renvoyer libres ceux qu'on opprime, de briser enfin toute servitude, puis encore, de partager ton pain avec l'affamé, de recueillir dans ta maison les malheureux sans asile. Quand tu vois un homme nu, de le couvrir, de ne jamais te dérober à ceux qui sont comme ta propre chair, c'est alors que ta lumière poindra comme l'aube, que ta guérison sera prompte à éclore, ta vertu marchera devant toi et derrière toi la majesté de l'Éternel fermera la marche. Alors tu appelleras et le Seigneur répondra, tu supplieras et il dira « Me voici ». Oui, si tu bannis de ton sein toute oppression, le geste violent et la parole malfaisante, si tu témoignes ta bienveillance à l'affamé et rassasis celui qui est torturé par le besoin, ta lumière brillera au milieu des ténèbres et ta nuit sera comme le plein midi. On retrouve dans ce texte le thème de la lumière que nous avions évoqué la semaine dernière, mais ce qui caractérise ce texte, c'est le fait que la justice, le bien fait à autrui, ont plus de valeur que l'application du rite et de la loi, celle du jeûne par exemple. L'esprit de justice peut ainsi modifier la loi, et de nombreux exemples traversent les textes de la tradition juive en ce sens. C'est la conclusion d'ailleurs du guide des égarés de Maïmonide, le plus haut niveau de l'application de la loi est le bien fait à autrui, la justice et l'application du droit qui en découle, le chesed, la tzedaka et le mishpat. Des valeurs éthiques qui orientent le droit talmudique et hébraïque et invitent à considérer la possibilité d'innover dans le domaine du droit et en particulier quand on est confronté à de nouvelles situations au sein de la société, comme c'est le cas aujourd'hui avec la PMA et la GPA qui sont au cœur de l'actualité politique et sociale avec l'arrivée il y a 15 jours à l'Assemblée nationale de la nouvelle loi sur la bioéthique ouvrant la PMA à tous les couples hétérosexuels et homosexuels et aux femmes seules. De manière très surprenante, le judaïsme est favorable à la PMA dans certaines conditions que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui. Ce sont des questions que vous avez beaucoup travaillées. Je rappelle, Rabbin Azoulay, que vous avez une formation de juriste, que vous êtes ancien membre du Comité consultatif national d'éthique et que vous êtes actuellement chargé des affaires sociétales auprès du grand rabbin de France, Raïm Korsia. Tout d'abord, il est intéressant de noter que l'idée d'une fécondation sans relation sexuelle est déjà présente dans le Talmud. Michael Azoulay.
Oui, alors c'est un texte très étonnant dans le Talmud traité qui porte le nom de Hagiga. Et dans ce traité, on a, dans une page de ce traité, on a un passage très curieux sur une femme qui se baigne dans une piscine. Le Talmud imagine en fait le cas d'une femme se baigne dans une piscine et qui se trouve inséminée par le sperme d'un homme qui s'y était baigné auparavant. Et alors, on va se poser la question de savoir, question des maîtres du Talmud, est-ce que cette femme est considérée comme vierge ou pas? Et donc, est-ce qu'elle a le droit d'épouser un Kohen Gadol? Alors, le Kohen Gadol, c'est le grand prêtre qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui existait à l'époque du Temple, et qui ne pouvait épouser que des femmes vierges. Maintenant, cette femme, quelque part, elle est vierge parce qu'elle n'a pas eu de rapport charnel, mais elle ne l'est pas puisqu'elle est enceinte. Et donc, le Talmud se pose la question de savoir, donc c'est le Talmud déjà imaginé ce qu'on appelle la désexualisation de la procréation. Et c'est un exemple célèbre. Il y en a un autre, un Tosafiste, donc des maîtres du Moyen-Âge, commentateur du Talmud, qui déconseille à une femme de dormir dans des draps dans lesquels un homme se serait couché auparavant, là aussi de peur d'être inséminé par cet homme. Alors c'est curieux à l'époque. Aujourd'hui, ça nous fait réfléchir, sur la PMA notamment.
Alors si les décisionnaires du droit hébraïque ont été assez réticents sur ces questions au XXe siècle, le XXIe siècle s'ouvre sur une volonté affirmée de trouver des solutions
Il faut préciser que le changement du judaïsme de position par rapport à la PMA, c'est-à-dire on était assez opposés au XXe siècle, maintenant il y a un vrai changement en faveur de la PMA dans le monde juif. Il y a plusieurs raisons, mais je crois qu'une raison essentielle, c'est le choix de la vie. Ou Vacharta b'chaim, c'est un verset connu, tu choisiras la vie. Et donner la vie, en fait, pouvoir donner la vie, donner à ces femmes cette possibilité, réellement, c'est sauver leur vie. On avait cité dans l'émission précédente la comparaison entre les personnes qui veulent avoir un enfant qui sont considérées comme mortes. Donc, leur permettre d'avoir un enfant, c'est leur donner la vie, au vrai sens du terme.
C'est ça, donner la vie non seulement à l'enfant, mais donner la vie à ces personnes qui, sans ces enfants, auraient une vie, presque sortiraient même de la dimension du vivant, ouais. D'un point de vue existentiel. Votre livre s'appelle « Éthique du judaïsme », et là, vous soulignez un des fondements éthiques du judaïsme, qui est cette expression « Vacharta b'chaim », tu choisiras la vie. Alors, il y a cette question de la PMA, de la procréation médicalement assistée, qui aujourd'hui devient une réalité qui arrive devant l'Assemblée nationale, mais pour le judaïsme, les recommandations concernent, entre autres la PMA, on va en parler, mais concernent tout d'abord la congélation des ovocytes.
Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Israël comme ailleurs, et dans le monde juif, les femmes sont concernées par les mariages tardifs. Donc les femmes font des carrières aujourd'hui, elles font des études, des carrières importantes, et souvent elles ne peuvent pas en fait se marier ou elles ne trouvent pas l'âme sœur. Et donc de plus en plus il y a une conscience qu'il faut permettre à ces femmes de pouvoir avoir un enfant le jour où elles auront ces disponibilités. Et donc par exemple le rabbin Menachem Burstein récemment a demandé, a autorisé en fait ce qu'on appelle l'autoconservation ovocytaire, donc la congélation des ovocytes, pour permettre plus tard une PMA lorsqu'elles trouveront leur futur conjoint. Donc il y a une vraie prise de conscience aujourd'hui de ce souci auquel les femmes seront confrontées. Et c'est nouveau parce que encore une fois, avant c'était réservé au problème de traitement. Encore aujourd'hui d'ailleurs, qui font qu'on va avoir des problèmes de fertilité parce qu'on va subir des traitements en chimiothérapie, etc. Et c'est dans ce cas-là qu'on conservait les ovocytes. Mais pas dans la perspective, alors qu'on est en bonne santé, dans la perspective de se marier plus tard.
Alors ce qui est intéressant, indépendamment de ce contexte même, c'est de montrer que le judaïsme pense une évolution de la loi en fonction de la réalité sociale et historique.
Tout à fait. Il y a toujours une prise en compte de la réalité sociale et d'évolution aussi sociale, alors qui n'est pas forcément sans limite, mais en tout cas, on essaye au mieux de répondre à l'évolution de la société.
On a parlé la semaine dernière de la détresse des femmes qui n'ont pas d'enfants, de ce désir d'enfant. La détresse des femmes en désir d'enfant et des couples en désir d'être parents a encouragé les décisionnaires à autoriser la PMA sous certaines conditions, et je crois qu'il est important de souligner tout d'abord que le judaïsme fait une distinction entre sexualité et procréation, rabbin Azoulay.
Oui, alors, vous avez tout à fait raison. Dans la tradition juive, il n'y a pas que la procréation, il y a aussi la sexualité en soi. C'est-à-dire qu'il y a un commandement de donner du plaisir à sa femme, qui s'appelle Ona, et qui est complètement, totalement déconnecté, comme on dirait aujourd'hui, donc dissocié de la procréation. Alors ça, c'est important de le rappeler parce qu'on a souvent tendance un petit peu à dire que les traditions monothéistes, tout ce qui compte c'est dans la sexualité, c'est la procréation. C'est faux dans le cas du judaïsme, puisque cette mitzvah qu'on appelle Ona est complètement différente de la procréation. Et ça voudrait dire effectivement que dans la tradition juive, ben, le plaisir sexuel participe à l'équilibre du couple. Et on est une donnée fondamentale pour le plaisir.
Je vais vous raconter une histoire. Il se passe des choses bizarres dans le métro le mercredi soir. Ça m'est arrivé il y a quelque temps. J'avais un rendez-vous très important avec l'assistant du receveur principal concernant la réattribution des allocations familiales. Et comme vous connaissez les problèmes de circulation dans Paris et sa périphérie, j'y suis allé en métro. Alors j'ai acheté un ticket et aussi un petit journal. Je suis descendu à la station Porte d'Orléans et le compartiment est parti tout doucement. Pour l'instant, rien de spécial. Quand tout à coup, à la station d'Enfer Rochereau, il y a une fille qui est montée et son regard a croisé mon regard. Elle avait des yeux, elle avait un nez, elle avait une bouche. C'était une fille normale, quoi. Moi, je me suis dit, Peut-être bien que c'est la femme de ma vie, alors je me suis demandé comment lui parler, comment l'aborder, et j'ai pas osé. N'importe comment, elle est descendue à la station d'après. Alors moi, je suis resté dans mon petit compartiment, avec mon petit journal, tranquillement et un peu tristement. Quand tout à coup, à la station Gare de l'Est, il y a une fille qui est montée, son regard a croisé mon regard. Elle avait des yeux, elle avait un nez, et là, elle avait une bouche. Moi, je me suis dit sûrement que c'est la femme de ma vie. Et alors là, elle s'est approchée de moi, elle m'a dit bonjour. Et alors moi, je lui ai répondu bonjour. Alors elle me dit, vous avez les résultats de la dernière journée du championnat de football de première division? J'ai répondu oui. Alors elle me dit, vous avez vraiment les résultats de la dernière journée du championnat de football de première division? Je lui ai dit, bah oui. Alors elle me dit, si vous avez vraiment les résultats de la dernière journée du championnat de football de première division, rien ne vous empêche d'aller boire un verre quelque part. Alors nous sommes allés boire un verre quelque part. Voilà, l'histoire est finie. Quoi, qu'est-ce que vous voulez? La suite? Vous voulez des détails? Aussi peut-être? Non, on n'a pas le temps. Bon d'accord, je vous résume. C'était pas la femme de ma vie, mais elle a quand même partagé ma vie pendant un petit moment et maintenant, de temps en temps, elle me téléphone quand elle est mal. Quand elle peut pas dormir, je l'emmène au cinéma, je la fais rire.
Elle a fait...
Je n'ai pas résisté, Rabin Azoulay, à vous offrir une version longue de cette chanson de Goldman. Elle a fait un bébé toute seule, qui date de 87, avec l'introduction de Goldman, enregistrée à la patinoire de Bordeaux le 25 septembre 1988. Une façon d'introduire cette question, qu'en est-il pour la tradition juive de la possibilité d'autoriser la PMA aux femmes seules? Je pense aux décisions juridiques tout à fait surprenantes du Rav Yuval Sherlo que vous citez dans votre livre.
Oui, alors il est très contesté, hein, d'ailleurs, Yuval Sherlo, parce qu'il fait partie des rares rabbins de la mouvance orthodoxe. D'ailleurs, je voudrais préciser que je parle en tant que aussi rabbin de cette mouvance, puisqu'il y a d'autres mouvances, d'autres courants dans le judaïsme qui peuvent avoir des sensibilités différentes, donc c'est la mienne qui s'exprime. Et donc, effectivement, il y a quelque chose de nouveau, c'est qu'on a maintenant des rabbins de la mouvance orthodoxe comme Yuval Sherlo, qui effectivement vont autoriser des femmes célibataires à avoir des enfants. Et il y a même une association qui s'est créée qui s'appelle Kayama, qui met en lien justement des mères célibataires par choix. Et dans ces mères, il y a des femmes orthodoxes. Donc c'est effectivement quelque chose d'absolument incroyable, puisque encore une fois, le judaïsme est très attaché à la notion de père et de mère. Et cette idée de permettre à des femmes d'avoir des enfants sans un mari, un père, pour l'enfance, c'est quelque chose d'assez nouveau. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui commence à apparaître.
C'est-à-dire, alors, et quelle est la justification halakhique, juridique, de ce rabbin Yuval Sherlo? Parce que je suppose que ces femmes célibataires vont avoir des enfants par PMA.
Oui, tout à fait. Alors d'abord, je pense que il faudra savoir d'où vient l'enfant. C'est-à-dire que, alors ça, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais au niveau de l'anonymat du donneur, c'est quelque chose qui n'est pas bien vu dans la tradition juive. C'est-à-dire qu'on est très attaché à la filiation, de savoir qui est le père, qui est la mère d'un enfant. Donc, si ce rabbin autorisait ces femmes célibataires à avoir des enfants, il faudra savoir qui est le père, notamment pour éviter des mariages, en fait, entre l'enfant qui naîtrait, cette femme ou un enfant, qui pourrait épouser, en fait, son demi-frère ou sa demi-sœur par ailleurs. Donc ça, c'est une première chose. Et je pense que cet homme, ce rabbin Sherlo et d'autres, sont sensibles à la détresse de ces femmes. Je crois que c'est surtout ça, à mon avis, qui motive leur autorisation.
Alors, vous venez de citer vous-même cet institut tout à fait étonnant. J'allais dire qu'en vous lisant, Rabbin Azoulay, nous allons de surprise en surprise, parce que vous parlez de Kayama Moms. C'est cette communauté de soutien aux mères célibataires. Et le texte, enfin le nom exact de cette association s'appelle « Célibataires par choix ». Un des points essentiels des lois discutées à l'Assemblée nationale est celle de l'anonymat des donneurs, vous venez d'en parler. Faut-il la préserver ou la lever ? Le judaïsme a des positions précises sur ces questions. Vous venez de dire que c'est important. Dans le cas d'une PMA, il faut absolument savoir d'où vient l'enfant pour éviter justement des cas de, on pourrait dire, d'inceste voilà. entre frères et sœurs ou d'autres cas, Michael Azoulay.
C'est la raison principale. Hein. Alors ça peut faire sourire parce que les gens disent mais il y a très peu de chances qu'il y ait une rencontre entre ces enfants. Je cite dans mon livre ce Britannique qui a eu 600, un donneur de sperme qui est le père de 600 enfants. Est-ce qu'il y a vraiment peu de probabilité qu'ils se rencontrent? C'est déjà moins sûr. D'ailleurs, dans tous les pays, on limite en fait aujourd'hui, lorsqu'on fait un don de sperme, on limite le nombre d'enfants qui peuvent naître par ce don, et notamment parce qu'on a peur justement de ces rencontres. Maintenant, je pense que dans la tradition juive, et quand on prend le Talmud, c'est très clair, il y a un très grand attachement, enfin un très grand souci de la clarté en termes de filiation. C'est-à-dire que ce soit la mère ou le père, on veut absolument savoir en fait d'où vient l'enfant. Et donc ce souci de la filiation et de la transparence entre guillemets cette filiation fait qu'il y a une opposition très forte à l'anonymat du donneur.
Et est-ce que dans la tradition talmudique que vous évoquez, il faut préciser dans l'état civil que l'enfant est né par PMA ou c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement à mentionner?
Je ne sais pas.
En ces jours de Rosh Hashanah et de Kippour, dans lesquels l'une des prières récurrentes est le Avinu Malkenu, notre Père, notre Roi, c'est une formule qui est passée en partie dans la liturgie chrétienne, la question du Père est sous-jacente à toutes ces formulations. Le Père n'est pas que biologique, et j'aime à me souvenir que le mot Père, Av, en hébreu, signifie tout d'abord l'alphabet. On a l'impression que le judaïsme est plus confiant sur la place symbolique du Père, sur sa présence, indépendamment de sa présence réelle et officielle. Comment un rabbin Azoulay pensait le Père dans le cadre de la PMA?
Alors ça, c'est une vraie question, parce que effectivement, l'importance du Père, c'est d'ailleurs ce qui s'oppose aujourd'hui à la PMA pour les femmes célibataires et pour les couples de femmes, invoque souvent cet argument de l'absence de père et des conséquences psychologiques que cela pourrait avoir pour l'enfant. L'Académie de médecine a pris position dans ce sens-là. Maintenant, dans mon livre, je rappelais simplement que la notion de père est une notion plurielle et qu'effectivement, par exemple, un exemple que je donne, c'est que le maître vis-à-vis de son disciple, est appelé père. Il y a un exemple très célèbre, c'est Moïse. À un moment donné, on parle des enfants de Moïse et d'Aaron, le grand frère, le frère aîné, on cite les enfants d'Aaron et pas ceux de Moïse. Pourquoi ? Réponse de Rashi, Moïse était le maître des enfants d'Aaron, donc il est comme leur père. Donc c'est comme si en fait ces enfants avaient deux pères, leur père biologique et leur père ontologique si je peux dire. Donc c'est intéressant, il y a aussi des prophètes, on parle aussi des enfants des prophètes, dans Jérémie, etc., dont on sait que ce n'étaient pas leurs enfants. C'était les élèves, les disciples, qui se préparaient, qui espéraient en fait à leur tour accéder à la prophétie. Donc on voit que finalement la notion de père, c'est plus que le biologique.
Je pense à cette émission que nous avons faite avec Didier Cahen, qui a écrit ce livre « Trois pères », Jabès, Derrida, Duboucher, et je lui avais posé la question pourquoi appeler ça père et pas maître, parce qu'il disait que justement, bien que ça soit des poètes qui l'ont construit dans sa vie, qui l'ont donné naissance d'un point de vue, je dirais, psychologique, existentiel, il y a la place du père, elle est ailleurs, elle n'est pas nécessairement dans le biologique, et pour l'hébreu, pour le Talmud, le fait que le père signifie l'alphabet, c'est quelque chose que peut-être le père est dans le langage de la transmission de ce que l'on reçoit du savoir et d'autres choses qui est nécessaire de recueillir pour pouvoir avancer.
Le père, c'est celui qui construit. D'ailleurs, en hébreu, ben, un fils, ben, certains disent que ça vient de boné, qui veut dire construire. Donc il y a effectivement cette idée que c'est pas simplement mettre un enfant au monde, c'est aussi l'édifier, lui permet de grandir et de se construire.
Alors je vois que vous avez amené avec vous ce livre de Charles Mopsik. Vous vouliez peut-être en dire un petit mot. Peut-être qu'on a raté. C'est peut-être tout à l'heure qu'il fallait en parler. Mais
oui, c'est quand on a parlé de dissocier la sexualité et la procréation. Et alors ce livre est extraordinaire parce que Charles Mopsik a traduit un livre qui s'appelle la lettre de sainteté, qui a été écrit par
Rabbi Yosef Djikatilia, Rabbi Yosef de Castille, XIIIe siècle, oui.
Et alors, ce livre est extraordinaire parce que contrairement au titre, la lettre de sainteté, on pourrait s'attendre à de l'abstinence, etc. Pas du tout. Il s'agit d'une véritable éthique du plaisir, où il y a cette mise en avant, cette sanctification de l'acte de plaisir. Donc qui est complètement un petit peu à l'opposé de ce qu'on pense des religions en général, des religions monothéistes qui seraient
des religions assez ascétiques,
etc. Alors là, non seulement il n'y a pas d'ascétisme, mais on ne peut se sanctifier que par la sexualité. D'ailleurs, en hébreu, un mariage, ça se dit kiddushin, qui veut dire sanctification.
Alors c'est dans ce livre que j'ai rencontré un enseignement d'un de vos ancêtres, le Chida, qui porte le même nom que vous, le rabbin Azoulay, un rabbi Azoulay, qui dit qu'il y a trois points d'acupuncture du désir que l'on trouve dans le texte de la Bible, qu'on retrouve pour la nomination des grands prêtres et pour la guérison des lépreux dans le texte biblique. C'est le fait de stimuler le lobe de l'oreille droite, le pouce de la main droite et l'orteil du pied droit. Et donc ce rabbin Azoulay dit que dans le cadre de la tradition mystique juive, ces trois points sont des points de stimulation du désir et du plaisir dans la relation du couple. Et c'est un des éléments que j'avais retenu, en tout cas dans cette lecture de ce très beau livre de Charles Mopsy qui s'appelle « La lettre de sainteté ». Nous venons de parler de la PMA, nous avons vu les ouvertures que la halakha, la loi juive, fait dans cette procréation médicalement assistée. Nous avons évoqué la semaine dernière très rapidement, mais je voudrais qu'on le développe un peu plus, la question de la GPA dans le judaïsme.
Oui, alors la gestation pour autrui, en fait, dans le judaïsme, elle est en majorité condamnée par les décisionnaires. C'est-à-dire qu'il y a une forte majorité de décisions. Alors, il faut expliquer que dans la tradition juive, enfin dans la bioéthique juive, qu'on appelait ça comme ça, ça fonctionne pas avec une pensée unique. On a des décisionnaires qui sont en débat par rapport à un sujet, avec chacun des arguments de texte forts. Hein. Donc là, en l'occurrence, quand on prend les textes sur la GPA, ce qu'on appelle les responsables. Alors les responsables, c'est important de rappeler, un responsum, c'est une question qu'on pose, qu'un individu ou une communauté pose à un sage qui est renommé, qui est réputé pour sa connaissance, et on lui pose une question. Toutes sortes de questions, dont des questions de bioéthique. Et donc quand on a posé cette question de savoir est-ce qu'on peut avoir recours, un couple juif peut-il avoir recours à la GPA, la majorité répond que non. Il y a quand même une minorité.
Alors, rappelez quand même ce que c'est que la GPA.
Alors dans la GPA, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a donc littéralement, c'est gestation pour autrui. Ça veut dire en fait, on a une femme qui ne peut pas porter d'enfant, soit parce qu'elle a plus d'utérus ou malformation d'utérus, enfin, un tas de raisons, qui font que pour avoir un enfant, elle ne peut que passer par une autre femme, qu'on appelle mère porteuse ou gestatrice. Et cette femme-là, donc, va porter un enfant le temps nécessaire, le 9 mois en général. Et ensuite, cet enfant sera abandonné à la naissance, si je peux dire, puisque cet enfant sera ensuite remis au couple qui désire cet enfant. Donc, c'est ce qu'on appelle la GPA. Alors, le problème de pourquoi les décisionnaires sont assez réticents par rapport à cette pratique, il y a beaucoup de raisons, mais une des raisons principales, c'est justement la problématique de la mère. C'est-à-dire, la mère, est-ce que c'est celle qui porte l'enfant et qui l'accouche? Ou alors, est-ce que c'est celle qui désire cet enfant, qui va d'ailleurs peut-être éventuellement donner ses ovocytes? Parce que dans la GPA, en fait, c'est la mère porteuse, en général, elle reçoit le patrimoine biologique du couple. Ça peut être le sperme du mari, etc. Donc maintenant, la question, c'est de savoir finalement qui est la mère de cet enfant. Et là, les débats sont très vifs entre ceux qui considèrent que la mère... Par exemple, PUA, qui autorise la GPA, l'Institut PUA, dont on a parlé, oui. Eh bien, a autorisé, il y a des cas concrets, hein, réels, où il a autorisé le recours à la GPA. Et celui qui a fondé l'Institut PUA, qui était un grand rabbin d'Israël, qui s'appelait Rav Mordechai Eliyahu, fait partie des décisionnaires qui disent que la mère, c'est toujours celle qui porte l'enfant et qui accouche, peu importe l'origine biologique de l'enfant. Donc ils ont cette position. Alors ça implique évidemment, par exemple, c'est très concret, hein, parce que si la mère porteuse, par exemple, n'est pas juive, et que c'est un couple juif qui passe par cette femme-là, il faudra convertir l'enfant au judaïsme. C'est des questions très, très concrètes. Vous voyez? Alors, ça pose beaucoup de problèmes. Et à cause de ces problématiques, beaucoup sont très réticents par rapport à la GPA.
Mais c'est intéressant d'un point de vue philosophique parce que, tout à coup, il y a un non-savoir. Il y a un non-savoir qui est porté par la mère. Et je pense, parce que je pense toujours à partir des mots en hébreu, la mère se dit M, Aleph Mem. Ça s'écrit de deux lettres, Aleph Mem, qui peuvent s'écrire aussi Im. Si, C'est-à-dire que ça pose la question du conditionnel, du doute, du peut-être. Et on a un cas concret qui peut-être n'est pas là pour être résolu, mais pour maintenir l'idée qu'il y a des choses pour lesquelles il n'y a pas de réponse définitive et qu'il ne s'agit pas pour la loi de trancher que la mère est la mère gestatrice ou la mère qui va recevoir l'enfant, mais que dans les deux cas, que dans tous les cas, il y aura une sorte de sagesse, je dirais presque, de l'incertitude. Et est-ce que pour cela, parce que la sagesse de l'incertitude est importante, puisque c'est justement un défi qui est fait à la raison, la raison qui connaît, la raison qui sait, est-ce que la GPA ne devrait pas être autorisé, ne serait-ce que pour cette sagesse de l'incertitude. C'est-à-dire que quand on va dire que la mère, c'est tel ou tel, c'est toujours en disant peut-être que la mère c'est tel ou tel, mais ça pourrait être aussi l'autre, par exemple.
Oui, ça va tellement loin qu'il y a même des décisionnaires, sans parler des GPA, même par exemple le don d'ovocytes. Il y a des décisionnaires qui disent, par exemple, que l'enfant aurait peut-être même deux mères. Celle qui donne les ovocytes et celle qui le porte. Voire mieux que ça, il y en a qui disent qu'on ne sait pas qui est la mère. Alors là, c'est vraiment ce que vous avez dit sur l'incertitude. Alors là, elle est totale. On ne sait pas, en fait, on n'est pas capable de dire qui est la mère de l'enfant. Mais le problème, c'est qu'on pense à l'enfant aussi. C'est d'ailleurs ce qui est en débat aujourd'hui, c'est qu'il y a aussi, il y a un problème de filiation. Donc indépendamment de savoir qui est la mère, il y a aussi ce problème du statut de cet enfant. Alors, dans le Talmud, on parle pas tellement, ou dans les textes, on parle pas tellement du problème de désir de l'enfant de connaître ses origines. Mais quelque part, on pourrait voir de manière sous-jacente que c'est ça qui est en filigrane. C'est-à-dire que ne pas connaître ma filiation peut aussi poser un certain nombre de problèmes psychologiques. Un jour, je veux savoir qui est mon père, qui est ma mère sur le plan biologique. À quoi ressemble-t-il? Qui est-il? Vous voyez, donc, c'est pas dit, mais on pourrait imaginer qu'il y a de cela. Ça participe de cela.
Merci Rabbin Michael Azoulay pour cette conversation riche et pleine d'innovations. Les auditeurs auront le plaisir de vous retrouver le dimanche matin sur France 2 dans l'émission Bereshit que vous présentez en alternance avec d'autres rabbins. En attendant, les auditeurs pourront lire votre livre « Éthique du judaïsme » aux éditions La Maison d'édition, un livre essentiel qui aborde, outre ces questions de la GPA et de la PMA, les questions de l'IVG, du don d'organes, de la fin de vie et de l'intelligence artificielle. Merci encore Rabbin Michael Azoulay.
Merci Marc-Alain Waknin.
C'était Talmudique, une émission de Françoise-Anne Ménager, Marc-Alain Waknin, à la prise de son aujourd'hui, Guillaume Ledu, à la réalisation, très sensible à la musique de Jean-Jacques Goldman, Danny Journeau. À l'occasion de cette nouvelle année 5780, toute l'équipe de Talmudique souhaite à toutes et à tous une année pleine de désirs, de plaisirs, de bonne santé et de réussite. Kol Tov, Leitrot, au revoir, Shana Tova, bonne année, bon dimanche à tous, bonne fête de Kippour et à la semaine prochaine. Petit déjeuner.